Collection Arthur Bernaid, Landru. Le 6 août 1914, tandis que les époux F. achevaient de déjeuner paisiblement dans leur salle à manger de petits bourgeois parisiens, une femme, âgée de 30 ans environ, encore jolie et assez coquette, pénétrait en coup de vent et s'écriait toute bouleversée « Oh, je suis à moitié folle !» Voilà 3 jours que Raymond n'a pas reparu. Cette nouvelle ne sembla pas du tout surprendre autrement le beau-frère et la sœur de Madame Cuchet, car ils échangèrent tous deux un rapide regard d'intelligence qui signifiait clairement « Parbleu, mais c'était prévu !» Puis Monsieur F. reprit « Tu sais ce que j'ai toujours dit, ma pauvre Jeanne, je n'ai jamais eu confiance dans ce type-là. » « Ni moi, » appuyait sa femme. Mais Madame Cuchet, qui s'était laissée tomber sur une chaise, se relevait aussitôt en protestant avec force. « C'est parce que vous ne le connaissez pas. »« Justement, » ponctuait Monsieur F. « Mais somme toute, » observait judicieusement la sœur de la belle Jeanne. « Comment as-tu connu Monsieur Diard ?»« Par une annonce qu'il avait fait passer dans un journal. » Et quel renseignement avais-tu sur lui? Uniquement ce qu'il avait bien voulu te raconter. Oh, nous avons eu beau, Pierre et moi, te recommander d'être prudente, mais tu n'as pas voulu nous écouter. Tant pis pour toi, si après avoir obtenu de ta faiblesse ce qu'il voulait, il a joué la fille de l'air. Et ce n'est pas possible, s'écriait Madame Cuchet avec véhémence. Depuis le mois de février où je l'ai rencontré pour la première fois, Raymond ne m'a donné que des preuves d'amour, la plus désintéressée, le plus sincère. Il m'a entouré de soins les plus affectueux, et m'a fait faire d'excellents placements d'argent. Si nous ne nous sommes pas mariés plus tôt, ce n'est nullement de sa faute, c'est parce qu'il attend toujours une pièce indispensable. D'un air sceptique, M. F. s'écriait « Ouais, ben, il est allé la chercher !» Ne plaisante pas. Reprenait Madame Cuchet. « Je suis très inquiète. Il a dû lui arriver malheur. » Madame F. eut un faussement d'épaule. Mais sa sœur poursuivait avec véhémence. « Je vous dis que si vous n'avez jamais pu le supporter, c'est du parti pris. Mais moi, en 5 mois d'existence commune, j'ai pu l'apprécier à son juste mérite. » Jamais il ne m'a inspiré la moindre inquiétude, causé la moindre peine. Jamais je ne l'ai entendu prononcer un mot plus haut que l'un que l'autre. Il est la douceur et la bonté même. Et les moments que j'ai passés avec lui dans notre petit logement de la chaussée sont certainement les meilleurs de ma vie. D'ailleurs, interrogez mon fils. André vous dira qu'il le considère déjà comme un second père et qu'il n'a qu'un désir. C'est que notre situation se régularise dans le plus bref délai. » Et tout en essuyant ses larmes, Madame Cuchet ajouta « C'est pas gentil à vous de me dire du mal de mon pauvre Raymond. » Impitoyée, Madame F. reprenait ben « Voyons, raconte-nous ce qui s'est passé. » Eh bien, c'était lundi, dans la matinée, Raymond me dit qu'il avait besoin d'aller à Chantilly pour faire viser son livret militaire, car il tenait à être en règle avec l'autorité militaire. Il prit son auto et partit. Et après, je l'attends encore. Es-tu allé au renseignement? Bien sûr, au commissariat de police, à la gendarmerie, au bureau militaire. Je l'ai demandé partout. Et on ne m'avait vu nulle part. C'est bizarre. Mais je me demande, s'écriait Madame Cuchet, si Raymond n'a pas été attaqué par des gens qui l'auraient assassiné pour lui voler la voiture et l'auraient ensuite enterré dans la forêt. En plein jour. Mais tout le monde est tellement occupé par la guerre. Il y a une telle pagaille que la police ne doit pas avoir le temps de s'occuper des malfaiteurs. Monsieur F. se prit à réfléchir. Il aimait beaucoup sa belle-sœur et appréciait infiniment ses qualités. Restée veuve très jeune avec un fils à élever, elle s'était mise courageusement au travail. Confectionnant dans le lin, série fine pour une importante maison. Elle gagnait largement sa vie. Et ben c'est même pour avoir un certain avoir. À ces jolies femmes, elle ne cachait pas son désir de se remarier. La solitude lui était un poids et elle désirait aussi trouver un protecteur pour son fils, qu'elle aimait tendrement et qui était employé depuis 1913 à la chemiserie Edmond, 34 rue des Fiviennes. Au mois de février 1914, Madame Cuchet faisait part à son beau-frère et à sa sœur de son projet d'épouser un monsieur Raymond Diard, commis ambulant des postes. Elle s'en était très vite éprise et bientôt également, elle annonçait son mariage à son patron. Le 18 avril, elle rapportait dans ses magasins les derniers travaux de couture effectués pour son compte. Dès le lendemain, elle s'en allait s'installer avec son fiancé au village de La Chaussée, près de Chantilly, où chaque semaine, du samedi au lundi, le jeune André Cuchet, âgé de 18 ans, venait la rejoindre. Dans tout le pays, on l'appelait Madame Diard, long comme le bras, et tout le monde estimait beaucoup le faux ménage, qui semblait d'ailleurs beaucoup plus uni que bien des couples réguliers. En effet, la belle Jeanne n'avait pas menti en racontant à ses parents que son Raymond la rendait parfaitement heureuse. À tous égards, il était le modèle des compagnons. Affectueux, tendre et même passionné, sachant employer les procédés qui plaisent aux femmes, spirituel à l'occasion, faisant oublier un physique naturellement rébarbatif par une bonne humeur que l'on pouvait croire inaltérable, doué d'une voix aux inflexions pénétrantes et harmonieuses, Raymond Diard n'avait plus tardé à occuper entièrement la confiance de Madame Cuchet, qui lui avait remis une grande partie de ses économies que son fils était empressé de déposer en compte à la succursale de la Société Générale à Chantilly. Et voilà que, depuis 3 jours, lui si exact, si ponctuel, qui jamais encore n'avait laissé seul en compagne sa compagne pendant 24 heures sans lui faire parvenir de ses nouvelles, lui aussi ménagé de son temps que de ses dépenses, ne donnait plus le moindre signe d'existence. Voilà pourquoi Madame Cuchet, qui ne pouvait admettre un seul instant l'hypothèse d'un lâchage, ne cessait de répéter à travers ses sanglots: Il a été sûrement assassiné. Si M. et Mme F. avaient toujours blâmé cette liaison, qui, soi-disant, devait se terminer par un mariage, et si Raymond Diard ne leur avait inspiré qu'une sympathie très relative, ils n'en comprenaient pas moins que leur devoir était de venir en aide moralement à la pauvre Jeanne. Avec bonté, Mme F. reprenait: Mais ne désole pas ainsi, dis-nous ce que nous pouvons faire pour toi. Mais je ne sais pas. Le mieux, posait M. F., est que tu retournes à la chaussée. Toute seule? Ben, nous allons t'accompagner, ta sœur et moi. Là, je ferai sur place une première enquête et nous verrons ensuite. Ben, tu es très gentil de t'occuper ainsi de moi. As-tu parlé de tout cela, André? Non, pas encore. Ben, tu as bien fait. Alors, quand partons-nous? Bien, le temps d'aller demander au commissariat des laissez-passer pour ma femme et moi, et nous filons. Alors, je n'oublierai pas ce que vous faites tous les deux pour moi. Mais c'est tout naturel, déclarait M. F. Et nous ne souhaitons qu'une chose, c'est que tu n'aies pas à te repentir d'avoir été trop confiante. 1 heure après, Madame Cuchet, M. et Madame F. arrivaient à la gare du Nord, et à travers la cohue provoquée par la mobilisation qui battait encore son plein, il parvenait non sans peine à s'installer dans un train de voyageurs en partance pour Chantilly. Après un trajet plutôt laborieux, ils arrivaient à la chaussée et pénétraient dans le petit logement qui venait d'abriter l'irrégulière lune de miel du commis ambulant et de la confectionneuse. Laissant les deux femmes seules, M. F., fidèle au plan qu'il s'était tracé, s'en allait immédiatement dans le pays aux renseignements. Tout ce qu'il put apprendre au point de vue fait c'est qu'on avait vu le dit prétendant Raymond Diard partir dans son auto, un vieux taco qui sonnait quelque peu la ferraille, dans la direction de Chantilly, et que depuis ce moment, il était devenu invisible. Au point de vue moral, M. F. put constater que son éventuel beau-frère n'avait pas précisément ce qu'on est convenu d'appeler une bonne presse. On le trouvait fier, peu aimable, plutôt mystérieux, et tout c'était unanime à dire qu'il n'avait pas les yeux de tout le monde. Monsieur F rejoignit sa femme et sa belle-sœur, de plus en plus ancrée dans ses soupçons. Il les trouva toutes les deux en train de fouiller dans les meubles. Allez le voir si elle ne découvrirait pas quelques papiers capables d'éclairer le mystère d'une disparition que les époux F mettaient sur le compte d'une fugue définitive, et que Madame Cuchet s'obstinait à rattacher à un crime. Les événements n'allaient pas tarder à donner raison aux deux premiers. En effet, remuant le fond d'une cantine où la fiancée de Raymond Diard avait laissé quelque argent, quelle ne fut pas sa stupéfaction en y découvrant un livret militaire et un livret de mariage, l'un et l'autre au nom d'Henri Désiré Landru. Sidérée, la malheureuse se refusa d'abord à en croire que ces deux pièces officielles appartenaient à son Raymond. « C'est pas possible, murmura-t-elle. C'est un de ses amis qui a dû les lui confier, car il est incapable de m'avoir menti à ce point. » Plus méfiant, M. F. s'emparait des deux documents. Bientôt, il constatait qu'aucun doute n'était possible. En effet, le signalement porté sur le livret militaire d'Henri Désiré Landru correspondait d'une façon tellement probante avec celui de Raymond Diard que la pauvre Jeanne dut en convenir elle-même. Quant au livret de mariage, il établissait que son détenteur était marié et qu'il avait deux fils. Peut-être, se raccrochait désespérément Madame Cuchet, m'a-t-il caché tout cela parce qu'il m'aimait vraiment et qu'il ne voulait pas risquer de me perdre en m'avouant la vérité. Mais les dernières illusions de cette malheureuse opiniâtre n'allaient pas tarder à s'évanouir. En effet, dans la même cantine où, si imprudemment, le faux commis ambulant avait déposé ses pièces si compromettantes, Madame Ève découvrait d'abord plusieurs lettres des fils de Landru à leur père, et dans lesquelles ceux-ci, tout en le remerciant des subsides qu'il leur avait fait parvenir ainsi qu'à leur mère, lui témoignait d'un respect qui n'était pas sans ressembler quelque peu à de la crainte. Puis toute une correspondance avec de nombreuses femmes qui ne pouvaient laisser subsister aucun doute sur les écarts de conduite dont Henri Désiré n'avait cessé de se rendre coupable, non seulement avant, mais pendant sa liaison avec l'infortunée Jeanne. Effondrée, elle dut enfin admettre la vérité. Elle ne put qu'éclater en sanglots et s'écrier dans la sincérité du plus touchant des désespoirs. « Oh, mais jamais je n'aurais cru cela de lui, jamais, jamais !»« Allons, allons !» encourageait sa sœur. « Pense à ton fils que tu aimes tant et qui est si gentil pour toi. Et puis nous sommes là aussi, mon mari et moi. »«
Tu peux être tranquille, » appuyait M. F. Nous ne t'abandonnerons pas. Tu peux compter sur nous. Tu vas emporter tout ce qui t'appartient. Nous allons rentrer à Paris. Tu n'as pas dans les congés de ton logement.
Non, articulait faiblement Madame Cuchet à travers ses larmes.
Eh bien, tu vas pouvoir y rentrer tout de suite. Dans quelques jours, quand tu seras un peu calmé, tu te remettras au travail. Et tu auras vite oublié ce mauvais rêve. » Véritable loque humaine, Jeanne demeurait là, incapable de réagir. Tandis que Madame F. commençait à faire des paquets, elle murmura simplement « Bon, c'est l'affaire à lui et ses papiers. Oh, il n'y a qu'à le laisser ici, décidait son beau-frère. S'il en a besoin, il viendra le chercher. Et en guise de conclusion, il crut devoir ajouter « Bah, il n'est pas bien intéressant. » Secoué par les sanglots, l'abandonné haletait.
« Oui, c'est possible, mais moi, je n'oublierai jamais. »
Le même soir, Madame Cuchet réintégrait le modeste mais confortable logement qu'elle occupait au 67 de la rue du Faubourg Saint-Denis. Lorsqu'elle se retrouva seule dans ce petit appartement où elle n'avait pensé revenir que pour son mariage, elle fut prise d'une telle crise de désespoir qu'étrangère à tout ce qui n'était pas sa douleur, elle demeura prostrée, anéantie, incapable de faire un geste, de prononcer une parole. La nuit venue, elle n'eut même pas la pensée d'allumer l'électricité. Elle se laissa envelopper par les ténèbres. Jusqu'alors, si excellente mère, elle en était arrivée à oublier son fils. Et c'était toujours l'autre, celui qu'à travers les divagations de son cerveau enfiévré, elle persistait à appeler son Raymond, dont elle subissait l'obstinante hantise. Vers 10 heures du soir, une sonnerie qui vibrait dans l'antichambre l'arracha à ses pensées. Elle redressa la tête. « Mais qui peut bien venir à 7 heures ?» se demandait-elle. « Mon beau-frère, ma sœur, mon fils... » Mais elle restait figée sur place, redoutant d'en avoir pas la force de faire un pas. Le visiteur insistait. Elle se leva, et la démarche dolente, elle s'en fut ouvrir. Dès qu'elle eut entrebâillé la porte, un cri lui échappa. « Lui !» Un homme brun, de 45 à 46 ans, au crâne dénudé, au nez allongé et aminci du bout, la barbe touffue, une grosse moustache qui n'arrivait pas à cacher entièrement les lèvres charnues, sensuelles, les yeux brillants, vêtus avec simplicité mais avec une correction parfaite, une rosette violette à la boutonnière se profilait sur le seuil. C'était Henri Désiré Landru. Chapitre 2. À demi défaillante, Madame Cuchet s'appuyait contre le chambranle de la porte. Landru s'approcha d'elle et, la poussant à l'intérieur du corridor, il fit d'une voix très douce, très persuasive. « Ne reste pas là, viens !» Et après avoir refermé le battant, il l'entraîna dans la chambre tout en disant « Oh, ne m'en veux pas t'avoir causé de l'inquiétude. Mais je vais tout expliquer et tu verras qu'il n'y a pas de ma faute. » Prévenant, pressé, il aida la pauvre Jeanne à s'asseoir sur un fauteuil. Puis, tout en déposant son chapeau sur une table, il fit sans le moindre embarras « Il ne faudrait tout de même pas oublier qu'il y a la guerre. »« Oui, la guerre, » répétait machinalement sa maîtresse. « Eh oui, je m'en suis bien aperçu lundi dernier. Lorsque je suis arrivé à Chantilly, l'autorité militaire a voulu réquisitionner ma voiture. Comme je faisais valoir à l'officier de service qu'elle ne valait pas grand-chose et qu'il ferait mieux de me laisser... Ce militaire l'a pris de haut et m'a même injurié. J'ai eu tort de lui répondre et il m'a fait coffrer. Heureusement que je connaissais. Mais il s'arrêta. Debout, transfigurée, frémissante d'indignation, Madame Cuchet s'était dressée devant lui, clamant.
Inutile de mentir davantage. Je sais qui tu es.
Qui je suis ? Murmura le faux commis ambulant.
Oui, j'ai trouvé aujourd'hui même à la chaussée ton livret militaire et ton livret de mariage. Tu t'appelles pas Raymond Diard, mais Henri Landru. Tu es marié et tu as des enfants.
Et après ? Posait son interlocuteur avec un aplomb et un sang-froid extraordinaire.
Après ?
Ripostait Jeanne, sidérée.
Il lui prit les mains et l'enveloppant d'un regard magnétique qui aussitôt désarma sa colère, il fit « Oui, j'ai eu tort, je reconnais. Mais je ne pouvais pas agir autrement. Parce que depuis l'instant où je t'ai connu, je t'ai aimé, je t'ai voulu, et je ne voulais pas risquer de te perdre en te disant la vérité. Raymond, persistait à l'appeler Jeanne, Raymond, c'est abominable d'avoir abusé de la confiance d'une femme qui t'aimait. Et qui m'aime encore, s'écria Landru avec passion. Oh non, non, c'est fini. Pourquoi? Un homme marié. Bon, je suis dans l'instance de divorce. Ça ne marche pas aussi vite que je l'aurais espéré. Cette maudite guerre, surtout, va tout retarder. Mais sois tranquille, j'ai des amis très haut placés, et ils m'ont promis de faire en sorte d'accélérer la marche de la justice. Et toutes ces lettres de femmes que j'ai trouvées aussi, sanglotait éperdument la malheureuse. Plaisanterie sans importance, déclarait Landru. Je voulais m'amuser, voir jusqu'où pouvait aller la crédulité féminine. Et sans doute à moi, comme à toutes les autres, tu as joué la comédie de l'amour. Tout en l'attirant étroitement contre lui, Landru affirmait d'une voix empressée. Mais avec toi, j'ai toujours été sincère. Les autres étaient des marionnettes qui ne comptaient pas dans ma vie. Trois petits tours et puis ils s'en vont. Tandis que toi, tu m'as pris tout entier, et à un tel point que je n'en reviens pas moi-même. Madame Cuchet secouait la tête d'un air sceptique. Landru reprenait. Tu me crois pas, eh bien, je vais t'en donner la preuve. Sentant que depuis quelque temps, tu prenais sur moi un ascendant qui m'effrayait, et ne voulant pas aliéner ma liberté. Mais oui, j'avais pris le parti de te quitter. Alors tu vois bien. Mais j'ai pas pu résister à 3 jours de séparation. Car j'ai senti qu'il me serait désormais impossible de vivre sans toi. Je suis retourné à la chaussée, et quand j'ai trouvé notre petit logis désert, j'ai eu une vraie crise de désespoir. Et vite, je suis rentré à Paris, pensant bien te trouver chez toi. Et maintenant, me voici revenu pour toujours. Oh, pardonne-moi mes mensonges. Ils étaient nécessaires à notre bonheur, à tous les deux. Oui, à notre bonheur, que rien désormais ne viendra plus troubler, je te le jure, ma bien-aimée, sur la vie de mes fils et du tien. La malheureuse, toujours en pleurs, avait laissé retomber sa tête sur l'épaule de son amant. Elle se défendait, mais mollement, en femme qui s'apprête à capituler. « Non, je ne veux pas, tu es mariée. Mais puisqu'avant 3 mois, je serai divorcée. Et tes enfants? Ben, ils t'aimeront, j'en suis sûr, comme une seconde mère. Raymond, pourquoi tu fais cela? C'est mal. Jeanne, je t'adore. » Landru avançait ses grosses lèvres rouges, avides de baisers, dispensatrices d'ardentes et subtiles caresses, vers la bouche entrouverte de sa maîtresse, qui, désarmée, ferma les yeux et s'abandonna au vainqueur. Le lendemain matin, il réintégrait leur logis de la chaussée. Quelques jours après, chassé par l'avance des anciens ennemis, il revenait à Paris. Landru, désormais, la tenait à sa merci. Profitant de l'influence mystérieuse qu'il exerçait sur elle, il l'amenait à rompre avec son beau-frère et sa sœur, en qui il n'avait pas été sans flairer des adversaires redoutables. En revanche, il redoubla d'amabilité envers le jeune André Cuchet, auquel, naturellement, on avait tout laissé ignorer, et le ménage irrégulier coula d'heureux jours. Insensible au grand drame du jour qui secouait non seulement la France et l'Europe, mais encore le monde entier, de la plus formidable émotion qu'ait jamais connue l'univers. Mais Landru avait déjà son but. Peut-être, lorsqu'il était entré en rapport avec Madame Cuchet, n'avait-il pas encore l'intention de lui donner la mort.
Mais il n'est pas douteux qu'il avait déjà conçu de dépouiller la trop confiante veuve de tout son avoir. Mais quel était en réalité cet homme destiné à devenir l'un des criminels les plus effroyables de tous les temps? En quelques mots, nous allons le préciser à nos lecteurs. Landru était né à Paris le 12 avril 1869. Fils d'honnêtes ouvriers, il avait commencé par être un garçon très sage et même un élève très studieux. Enfant de cœur à sa paroisse, il avait même pu, par sa pitié et son zèle, donner à penser aux siens qu'il embrasserait un jour la carrière ecclésiastique. Mais en grandissant, ses idées religieuses cédèrent à ses convoitises matérielles, qui de jour en jour se faisaient de plus en plus exigeantes. Au retour de son service militaire, il entrait comme employé à la Garentel Mobilière, où il ne demeura que peu de temps. Puis il se lança dans l'automobile et après avoir passé par différentes maisons, il exploitait pendant quelque temps un garage à Malakoff. Somme toute, Landru, qui entre-temps s'était marié et était devenu père de deux garçons, n'avait jamais vécu que de moyens inavouables, d'escroquerie, d'indélicatesse, jamais d'un travail régulier. Il puisait toutes ses ressources dans l'exploitation des femmes. Il s'efforçait de s'approprier leur avoir ou leurs économies en entrant en relation avec elles, soit au hasard des rencontres sur la voie publique, soit par des annonces pompeuses dans certains journaux. Il les flattait avec une habileté consommée et exerçait sur elles une emprise incontestable grâce à sa connaissance du milieu social, de la mentalité et des aspirations de ces malheureuses. Plus tard, il devait être établi que Landru avait été en relation avec 283 femmes. De là pour lui la nécessité de tenir à jour de nombreux carnets de notes et de dossiers dont la teneur devait être singulièrement compromettante pour son auteur. Mais n'anticipons pas sur les événements tragiques qui vont suivre. Contentons-nous d'ajouter que l'exercice d'une aussi périlleuse profession n'avait pas été déjà sans causer à Landru quelques ennuis. Son casier judiciaire s'en est déjà de 5 condamnations, dont voici le détail. 11 juillet 1804, Paris. Escroquerie, 2 ans de prison, 50 francs d'amende. 22 mars 1906, Sens. Escroquerie, 13 mois de prison, 50 francs d'amende. 27 mai 1906, Paris. Abus de confiance, 3 ans de prison, 100 francs d'amende. 20 juillet 1914, Sens, escroquerie, 4 ans de prison, 100 francs d'amende, peine accessoire de la relégation. Il est regrettable que, pour Madame Cuchet, que Landru n'eût pas ajouté au papier qu'il avait si imprudemment laissé traîner dans sa cantine, ce document qui aurait sans doute empêché la pauvre femme de pardonner à ce si dangereux coquin et de reprendre avec lui la vie commune. Mais elle était chambrée, et bien chambrée. Maintenant, surtout, qu'elle avait découvert la véritable identité de son fiancé de proie, elle allait devenir sa victime. L'idée de la faire disparaître ne germa peut-être pas immédiatement dans la cervelle du futur barbe bleue de Cambay, et il est fort possible que, s'il ne se fût pas trouvé dans les conditions exceptionnelles qui lui permettaient d'escompter l'impunité, il n'eût pas songé à un assassinat dont il était trop intelligent pour ne pas en avoir prévu toutes les conséquences. Mais on était en guerre. Forcément, la police, dont la tâche était devenue si complexe, si délicate, si grave, et surtout si importante au point de vue de la défense nationale, ne pouvait pas exercer sur la criminalité courante un contrôle aussi rigoureux qu'en temps de paix. Un grand nombre de nos agents de la police judiciaire et de la Sûreté générale, parmi lesquels il fallait compter les meilleurs,
était mobilisé ou en service aux armées. Supprimer quelqu'un devenait donc plus facile, surtout pour un individu qui, à un manque absolu de principe, joignait une astuce, un sang-froid, un aplomb et une présence d'esprit que l'on rencontre rarement réunis en une seule personne. Ce furent certainement ces conditions qui décidèrent Landru à se débarrasser non seulement de sa fiancée, qui jugeait plutôt compromettante, mais aussi du fils, qui pourrait devenir non moins dangereux à son tour. Cela, bien entendu, après s'être emparé de tout son argent, de tous ses meubles, bijoux et souvenirs, sur lesquels, dès son entrée dans le jeu, il avait jeté son dévolu. Résolu à son double crime, Landru va passer immédiatement à son exécution. Mais, avec une roublardise extraordinaire, il saura s'entourer de toutes les précautions nécessaires. Profitant de ce que Madame Cuchet ne voit plus et ne vit plus que par lui, il commence par lui faire congé de son appartement pour le terme de janvier. Et il loue à verrouiller la Villa Lodge, 47 rue de Mantes. Et à la date du 8 décembre, le déménagement est effectué. En 3 jours, tout a été bâclé, écrit Madame Cuchet à une de ses amies, en s'excusant de l'avoir pas prévenue plus tôt de sa détermination, et en exprimant le désir de la voir bientôt et de la recevoir à Vernouillet, dès que le temps le permettra. De plus, Landru, à la date du 1er janvier, fait établir un acte, non plus au nom de Madame Cuchet, mais de Monsieur Cuchet, qui lui garantira aussi, en cas de disparition de la veuve, la jouissance de la villa, pour une durée égale à celle de l'engagement primitivement signé par Madame Cuchet elle-même. Avec les pièces d'identité du défunt Cuchet, qu'il a pris soin de remiser, il pourra un jour prendre son nom et, à l'aide de ce faux état civil, faire de nouvelles dupes. La pauvre Jeanne était à 100 lieues de soupçonner les sinistres projets que son Raymond ruminait contre elle et son jeune fils. Le misérable savait si bien cacher son jeu. Il la comblait de bouquets, de bonbons, de ces menus petits cadeaux dont on dit si bien qu'ils entretiennent l'amitié. Installés à Vernouillet, la mère et le fils y séjournent paisiblement pendant le mois de janvier. André Cuchet vient 2 fois à Paris, l'une pour rapporter les clés de l'appartement du faubourg Saint-Denis, la seconde pour prendre le courrier. À partir de ce jour, personne ne devait plus jamais revoir ni la mère ni le fils. Qu'était-il devenu ? C'était le secret de Landru. Et bien fin eût été celui qui aurait pu en percer le mystère. Mais ce gredin n'allait pas demeurer inactif. Afin de dissiper les inquiétudes que les disparitions des deux Cuchet pouvaient faire naître dans l'esprit de leurs intimes, il se présentait un jour au domicile d'une amie de Jeanne, et sans se faire connaître autrement, il lui annonçait que Madame Cuchet et André sont partis pour l'Angleterre, mais qu'il ignorait leur adresse. À Vernouillet, il répandait également le bruit que Madame Cuchet avait passé le détroit et que son fils s'était engagé dans l'armée anglaise. Quant aux F, la brouille avec leurs parentes avait été trop sérieuse et des paroles trop irréparables avaient été prononcées pour que ceux-ci s'inquiétassent de celle qui leur avait signifié clairement et violemment, sur les instigations de son Raymond, qu'elle les rayait de son existence et qu'elle ne voulait même plus jamais entendre parler d'eux. Tranquille à ce sujet, Landru allait pouvoir réaliser la succession des deux disparus, sachant très bien qu'il ne reviendrait jamais la lui disputer. Il commence par céder à un sieur P. une assurance sur la vie, consentie au profit d'André Cuchet, en lui présentant des papiers d'identité et en signant un reçu de ce nom. Il négocie à une banque de la place du Havre une obligation communale 1891 La seule valeur qui appartenait encore à Madame Cuchet au moment de son entrée en relation avec lui. Enfin, il fait transporter par un déménageur de Maison Lafitte de Vernouillet à Neuilly, dans deux garages différents, un certain nombre de meubles provenant de la villa de Lodge. Mais il y a mieux. Cyniquement, il endosse la personnalité de Cuchet, le père et le mari défunt de ses deux victimes. Il vit ostensiblement sous ce nom. Il s'y fait condamner en se faisant dresser par ses verbales pour avoir voyagé sans billets valables des îles où il était allé voir sa famille qu'il y avait installée à Paris, devenu pour quelque temps du moins le théâtre de ses opérations. Maintenant que l'expérience a réussi, Landru, conscient de ses talents de criminel, et fort d'une impunité qu'il doit aux événements dans lesquels se débat la France, va pouvoir renouveler en série son sinistre exploit. Lancé sur la pente du crime, il ne s'arrêtera plus que lorsque la justice lui mettra la main au collet. Mais d'ici là, quelle hécatombe!
Chapitre 3. Au début de juin 1915, Madame T, honorable concierge d'un immeuble situé à Paris, 95 rue de Pinceny, s'apprenait à se rendre faire quelques courses dans le voisinage lorsqu'une de ses locataires, Madame Labordelino, qui habitait un modeste appartement au premier à droite, fit irruption dans sa loge. Âgée de 45 ans environ, sans beauté mais le visage épanoui d'une jolie débordante, l'air d'une très brave femme, ce qu'elle était d'ailleurs, Madame Labordelino s'écriait « Ah, ma bonne Madame T, vous avez toujours été si gentille envers moi que je veux que ce soit vous qui appreniez la première la grande nouvelle. » Et rajeunie de 10 ans, toute vibrante d'une allégresse qu'elle ne songeait pas à contenir, elle précisait « Je vais me remarier !»« Oh, tous mes compliments !» faisait aussitôt la concierge. « C'est bien à votre tour d'être heureuse. Mais asseyez-vous donc, Madame Labourette. Je vois que vous allez sortir. Oh, je ne fais rien. J'ai bien un petit moment pour vous écouter. » La fiancée, qui semblait tourmentée par un irrésistible désir de confidence, s'installa sur une chaise et reprit aussitôt.
« Bien voilà, depuis le départ de mes enfants, j'étais bien seule. Je m'ennuyais, et puis ainsi que vous le savez, sans être dans le besoin, je n'ai pas de très grosses ressources. Aussi, autant pour me distraire que pour améliorer ma condition, j'avais fait passer dans un journal une annonce signée Raoul, où je demandais un emploi pour une femme active, intelligente et honnête, qui disposait de quelques heures dans la journée, où j'ai reçu pas mal de lettres, ainsi que vous avez dû vous en apercevoir. Mais il en est une qui a surtout attiré mon attention. On sentait qu'elle avait été écrite par un homme très comme il faut, très distingué. Je ne me trompais pas. Vous ne pouvez pas vous figurer comme il est bien et intelligent. Quand il vous parle, on croirait qu'il ne se déteste jamais. On voudrait, mais c'est un évacué du Nord. Il possède une certaine aisance. Il demeure à Vernouillet, à une villa avec un joli jardin fleuri. Il a même une auto qu'il conduit lui-même, et est très bien. Nous avons déjà fait, en somme, de très belles promenades. Vous devez le connaître, il est déjà venu ici plusieurs fois. Il a dû certainement me demander. Non, je ne me rappelle pas. Un homme de 45 ans, avec une barbe noire, des yeux très brillants, une voix très douce. Je ne vois pas. Nous ne nous sommes plus. Nous nous sommes fiancés et nous nous marierons dès que j'aurai fait venir l'Amérique les papiers nécessaires. Il m'a demandé, En attendant d'aller habiter avec lui. Et vous avez accepté? Il a tellement insisté. Il paraît déjà si attaché à moi que je m'en voudrais de lui causer la moindre peine. Et puis je vous avouerai que je ne suis pas fâché de demeurer dans une maison confortable et bien meublée, où je n'aurai qu'à me laisser vivre. Avez-vous prévenu votre fils? Pas encore, je suis un peu en froid avec ma bru. Aussi, au lieu d'écrire, je préfère avoir avec mon fils, qui a toujours été parfait envers moi, un entretien en tête-à-tête où je lui modifierai mes intentions. Oh, je suis sûr qu'il en sera très satisfait, car il m'aime beaucoup et je n'ai jamais cessé d'être en excellent rapport avec lui. C'est un si brave garçon. Alors, Madame Laborde, vous allez me quitter. Dans quelques jours. Oh, je vous regretterai bien. Moi aussi, mais qu'est-ce que vous voulez? Quand le bonheur passe auprès de vous, on aurait bien tort de le laisser s'éloigner. Mais je vous laisse, excusez-moi de vous avoir retenu si longtemps. Encore tous mes compliments. Quand je serai installé là-bas, j'espère bien que vous viendrez nous voir. Mais je ne peux guère m'absenter de ma loge. Vous vous arrangerez. On est entendu. Je me sauve, car il faut que je commence mes paquets. Tandis que Madame Laborde regagnait son premier, la concierge, après avoir fermé à clef la porte de sa loge, s'en allait en murmurant. Oh, tant mieux pour cette brave femme, si elle est heureuse. Oh, tiens, j'ai oublié de lui demander le nom de son futur. Ce nom, tous nos lecteurs l'ont deviné, c'était Landru. La femme sur laquelle il avait jeté son dévolu était pour lui une proie tout indiquée. Née le 12 août 1868 à Chaconus, province de Buenos Aires, où elle était mariée en 1880 avec un aubergiste Doloro, dont elle avait eu un fils qui était entré dans l'administration des postes et des télégraphes. Abandonnée par son mari, elle avait reporté toute son affection sur ce fils. Lorsqu'il avait été nommé à un emploi à Paris, elle l'avait suivi, et lorsqu'ils s'étaient mariés, elle avait continué à vivre avec lui. La belle-mère et la bru ne s'étaient guère entendues. Une séparation allait s'imposer lorsque M. Laborde-Lyne fut appelé par ses fonctions à Troyes. Il déménageait avec sa femme et laissa à sa mère la jouissance de son appartement de la rue de Patay, où nous allons la retrouver en train de réunir ses effets et ses souvenirs pour un proche départ. Debout devant sa commode, dont le tiroir supérieur était ouvert, elle était occupée à en retirer quelques menus objets lorsqu'on sonna à sa porte. Vite, elle s'en fit ouvrir en disant: Oh, si c'était lui! Elle ne se trompait pas. C'était bien Landru qui, ayant à la main quelques roses enveloppées dans un papier, se présentait à elle. Après l'avoir remerciée de ses fleurs, elle l'emmena aussitôt dans sa chambre. Oh, excusez-moi, fit-elle, j'étais en plein rangement, tout est encore en désordre. Landru demandait aussitôt. Avez-vous donné congé à votre propriétaire? Non, pas encore. Ah, vous ferez bien, ma chère amie, de vous dépêcher, car ce serait bien inutile de payer un terme de plus. Oui, vous avez raison, dès ce soir, je ferai le nécessaire. Promenant autour de lui un regard connaisseur, Landru reprenait. Ben, ils sont fort bien, ces meubles. Ce petit secrétaire empire sur tout. Bon, c'est dommage qu'à Vernouillet nous n'ayons pas de place. Madame Laborde reprenait. Ben, je ne vous cacherai pas que cela me fait gros cœur de les vendre. La plupart sont pour moi des souvenirs. Ben, attendez donc, s'écriait le séducteur barbu. Il y a peut-être un moyen de tout arranger. Dites. Bien, nous pourrions nous entendre avec un garde-meuble qui les en conserverait jusqu'à ce que je me sois débarrassé des miens, que nous rassemblerions ensuite par ceci, et alors.
Madame Laborde, Aline ne laissa pas continuer son interlocuteur. Enthousiasmée par sa proposition, elle lui sautait au cou en disant « Oh, décidément, vous avez toutes les attentions, toutes les délicatesses !» En un élan qu'il sut rendre passionné, le misérable serra contre sa poitrine celle qu'il avait déjà condamnée à mort. En effet, quelques jours après, Madame la Bordeline, s'étant mise en règle avec son propriétaire, obtenait de celui-ci l'autorisation de faire sortir ses meubles de l'appartement. Une maison de la rue Mouffetard se chargea de déménagement. En faisant ses adieux à sa concierge, la seconde fiancée de Landru lui déclarait qu'elle allait aviser son fils de son prochain mariage. Elle la priait de recevoir sa correspondance et de l'ouvrir jusqu'au jour où elle lui donnerait de ses nouvelles et lui ferait parvenir son adresse. Depuis ce moment, ni la concierge de la rue de Patay, ni personne n'entendit plus parler de Madame la Bordeline. Le 13 juillet suivant, Landru, sous le faux nom de Cuchet et par l'intermédiaire du banquier R, vendait deux titres, une obligation commune de 1801 et une obligation de la ville de Paris 1910, que Madame la Bordeline avait retirée du Crédit Lyonnais le 25 juin 1915, l'avant-veille du jour où elle déménageait du logement de la rue de Patay. Enfin, le 15 septembre suivant, le gredin retirait les meubles déposés lors du déménagement au garde-meuble de la maison de la rue Mouffetard, en les répartissant dans différents endroits où l'on devait les retrouver plus tard. En moins de 2 mois, la malheureuse avait été spoliée et assassinée. Landru commençait à se faire la main. Encouragé par le succès, il allait continuer ses atroces exploits. Dès le 1er mai 1915, à la rubrique « Mariage », il faisait insérer dans un grand quotidien du matin l'annonce suivante. « Monsieur 45 ans, seul, sans famille, situation 6000, aïe, inter, désir épouser, même âge, situation rapport, GI 45, journal. » On ne se doute pas de ce qu'une telle annonce, qui pourtant n'a rien de bien excitant, peut provoquer de réponse. Landru a reçu un nombre assez considérable pour qu'il se trouvât dans l'obligation de procéder à une sélection. Soit que les femmes avec lesquelles il était rentré en rapport ne lui apportassent pas les ressources matérielles suffisantes, soit qu'il réussit à capter leur confiance et à impressionner leur cœur, Landru ne devait pas tomber tout de suite sur la proie qu'il convoitait. Il se préparait même à faire passer un nouvel entrefilet dans le journal, lorsqu'en reprenant dans le répertoire qu'il avait constitué et sur lequel il avait cyniquement écrit « en réserve à voir ultérieurement » les lettres qu'il avait laissées en souffrance, son attention fut attirée par l'une d'entre elles qu'il avait jusqu'alors négligé et qui lui parut digne de retenir son attention. Elle provenait d'une certaine Madame Guillain, qui habitait 95 rue Crozatier. C'était une ancienne gouvernante qui avait hérité au décès récent de son maître d'un capital de 22 000 francs et possédait en outre des économies importantes. « Mais riche aubaine !» se dit Landru, « mais... comment se fait-il que je n'ai pas pensé plutôt à cette Madame Guillain, au lieu de perdre mon temps à la poursuite d'un gibier trop maigre qui ne voulait pas se laisser prendre ? » Immédiatement, le bandit écrivit à Madame Guillain une lettre assez habile pour que celle-ci n'hésitât pas à lui donner rendez-vous à son domicile. La malheureuse allait tomber tête baissée dans le piège. Landru, il faut lui rendre cette justice. S'il n'avait pas la séduction physique d'un don Juan ou l'intrépidité d'un ver galant, était tout aussi éloigné des brutalités bestiales d'un Raspoutine. Sa grande force était son bagout. non pas un bagout de camelot de la rue, mais une facilité d'élocution naturelle, servie par une intelligence très vive, une mémoire impeccable, une astuce sans limite, un art réel des nuances et surtout un esprit naturel qui lui inspirait des reparties tour à tour amusantes et profondes, grâce auxquelles il finissait par embobiner toutes celles qui avaient résisté à la puissance vraiment magnétique de son regard. On a pu dire de lui que s'il n'avait pas été surtout un grand paresseux, il aurait pu devenir un homme d'affaires tout à fait remarquable. Il ne va pas tarder à nous en donner la preuve. Dès qu'il fut en présence de Madame Guilin, Landru, qui était très physionomiste, comprit immédiatement tout le parti qu'il pouvait tirer de cette femme. Âgé de 51 ans, sans grands avantages physiques et sans connaissances pratiques, coquette peu raffinée dans ses goûts, amie des plaisirs faciles et surtout très désireuse de s'élever à une situation sociale supérieure, elle ne pouvait être qu'un jouet dans ses mains de suborneurs, de voleurs et d'assassins. « Madame, entamait Landru, oh, je m'excuse auprès de vous si je n'ai pas répondu plus tôt à votre lettre. Mais évacué de l'île et m'occupant beaucoup de mes malheureuses compatriotes, exilés comme moi de leur petite patrie, j'ai dû me rendre dans différents ministères pour d'importantes démarches et cela m'a pris tous mes instants. » Madame Guilin l'écoutait, très favorablement impressionnée par l'attitude si correcte, si réservée, du rusé coquin qui, dès ses premiers mots, avait su se présenter à celle qu'il avait résolu de dépouiller et d'assassiner comme un cœur dévoué, généreux et toujours prêt à rendre service à son prochain. Comment la pauvre femme, si simple, si peu méfiante, n'eût-elle pas été flattée d'avoir attiré sur elle l'attention d'un vrai monsieur, qui déjà lui adressait des regards, certes encore très déférents, exempts de tout équivoque, mais qui néanmoins lui laissait clairement entrevoir qu'elle était encore capable d'inspirer d'autres désirs que celui d'un mariage de convenance. Toujours habile, Landru se garda bien de jouer tout de suite le grand jeu. Cependant, après avoir raconté à Madame Guilin qu'il était libre de tout engagement légal ou autre, et lui avoir affirmé, en poussant un profond soupir, que la solitude lui pesait et qu'il voudrait bien se créer un foyer, il se leva discrètement et se contenta de demander à l'ancienne gouvernante la permission de revenir la voir. Non seulement elle accepta, mais elle força Landru à se rasseoir. Merveilleusement amorcée par le gredin, elle tenait à lui raconter tout de suite sa vie et elle s'écria en un élan de naïveté, dont le gredin dut bien rire dans sa barbe. « Oh, je veux me montrer aussi franche envers vous que vous venez de l'être envers moi. Si, comme vous, je suis libre de tout lien légal ou illégitime, j'ai une fille que j'aime beaucoup. » Elle est d'ailleurs très bien mariée, très heureuse. Elle a un petit garçon qui est un amour. Et avec un sourire un peu mélancolique, elle ajouta « Oui, je suis donc grand-mère. » « Oh, ne le dirai pas, » affirmait Landru, avec toutes les apparences de la sincérité. Et galamment, il s'empressa d'ajouter « Oh, je suis sûr que quand vous vous promenez avec votre petit-fils, on doit vous prendre pour sa maman. » Madame Guilin sourit et rougit. Landru venait de la prendre par son côté faible. La coquetterie. Profitant de cet avantage, il reprit aussitôt. « Comme vous devez l'aimer, ce marmot !»« Oh, ça c'est vrai. Il est si gentil. Peut-être, monsieur, pensez-vous que j'ai tort de vouloir me remarier ?»«
Mais pas du tout !» protestait le misérable. Vous n'êtes pas d'un âge où l'on doit, même pour ses enfants, renoncer aux joies normales que peut vous procurer une union assortie. C'est très bien de penser beaucoup aux autres, mais il faut aussi penser un peu à soi.
Oui, je dois vous dire qu'ayant fait
par à ma fille et à mon gendre de mes projets, ils ne m'en ont nullement dissuadé, bien au contraire.
Eh bien, cela prouve qu'ils vous sont sincèrement attachés.
Oui, ils sont très gentils pour moi. Mais dites-moi, monsieur, vous prendrez bien une tasse de thé?
Oh, je ne voudrais pas abuser.
Je vous en prie.
Oh, je suis confus.
Le thé absorbé, Landru se retira après avoir pris rendez-vous pour le lendemain avec Madame Guillain, à laquelle voulait faire connaître sa villa de Vernouillet.
Ne faut-il pas battre le fer quand il est chaud?
Encore une, se dit le gredin en descendant l'escalier. Et il ajouta mentalement:
bon, avec elle, je crois que ça ne va pas t'arrêter.